Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau grand oral AEF Info FNEJ, le podcast qui interroge les dirigeants de l'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Pieuvezan, journaliste à l'agence de presse AEF Info, et j'ai le plaisir de co-animer ce dernier épisode de la saison avec Bernard Amanantsou, directeur honoraire d'HEC Paris, qui représente ici la FNEJ. Ensemble, nous accueillons aujourd'hui une nouvelle tête dans le monde des business schools et des IAE, qui a pris la présidence en janvier dernier d'une commission ministérielle très importante dans ce secteur, la CEFDG, pour Commission d'évaluation des formations et des diplômes de gestion. Cette nouvelle tête, c'est celle de Jérôme Méric, avec qui nous allons passer les 25 prochaines minutes. Bonjour Jérôme et bonjour Bernard.
Bonjour.
Bonjour Sarah, bonjour Bernard.
Jérôme Méric, je dis que vous êtes une nouvelle tête parce que vous avez pris vos fonctions de président il y a environ 6 mois. Mais en réalité, vous siégez dans cette commission depuis déjà 4 ans en tant que membre. Vous êtes aussi professeur à l'IAE de Poitiers, spécialiste de contrôle de gestion, et vous avez fait vos études initiales à HEC Paris, comme quoi le monde est petit. Vous connaissez donc très bien les rouages de cet écosystème, et cet écosystème, il est un peu chamboulé en ce moment. Alors je vais essayer de résumer rapidement les épisodes précédents avant de vous laisser la parole. Depuis 10-15 ans, on a vu une croissance assez vertigineuse de l'enseignement supérieur privé en France, qui représente aujourd'hui environ un quart des effectifs du supérieur. Cette croissance a été boostée par la grande politique en faveur de l'apprentissage voulue par Emmanuel Macron depuis 2018, qui a provoqué par effet d'aubaine l'arrivée d'une foule de nouveaux acteurs de la formation, avec une forte composante d'acteurs à but lucratif. Ces nouveaux entrants sont venus complètement brouiller les cartes d'un marché qui était déjà assez opaque et assez complexe pour les familles, dans lequel elles avaient du mal à se retrouver. C'est devenu pire. Aujourd'hui, en 2025, un jeune bachelier a le choix entre 24 000 formations différentes sur Parcoursup, et je crois que c'était à peine 14 000 il y a 10 ans. Et puis, derrière tout ça, il y a la question de la qualité de toutes ces formations. Mènent-elles vraiment à l'emploi? Permettent-elles de poursuivre ou de reprendre des études, notamment à l'université? Sont-elles délivrées par des gens dont c'est le métier? Bref, il y a là des questions de régulation et d'évaluation. Et ça tombe bien, puisque l'évaluation, c'est justement le métier de votre commission, la CEFDG, qui est là pour garantir la qualité des diplômes décernés par les écoles de commerce qui se situent en dehors du champ universitaire public. C'est bien ça, Jérôme?
Absolument. Il s'agit de l'enseignement supérieur technique privé,
c'est
pour
ça.
Reprendre les termes légaux.
Tout cela est en train de changer. Le ministère veut désormais délivrer un agrément aux établissements qu'il jugera de qualité. Cela veut dire que ceux qui ne seront pas jugés aptes ne seront pas agréés. Il y a donc pas mal d'enjeux, évidemment. Beaucoup de questions qui se posent sur la façon dont va être délivré cet agrément. Par qui, sur quels critères, avec quelle contrepartie pour les écoles qui se soumettront à ce processus d'évaluation? Et donc ma première question est assez simple pour vous, Jérôme Méric. Quel sera le rôle de la CEFDG dans ce processus de délivrance du futur agrément?
La CEFDG doit prendre toute sa part dans l'évaluation de l'enseignement supérieur privé parce qu'elle travaille sur les formations. Mais elle a aussi une vision très riche et très claire, je crois, et on a pu le partager mercredi dernier, sur les établissements. Or, aujourd'hui, la réforme qui est à l'œuvre veut faire de l'évaluation des établissements la porte d'entrée. Lorsqu'un établissement sera agréé, ou lorsqu'il appartiendra au cercle des ESPIG, qui sera peut-être élargi à d'autres établissements.
On en parler si vous le voulez. Les ESPIG qui sont des établissements
d'enseignement supérieur privé d'intérêt général.
Donc ce sont des établissements privés, mais qui ont reçu un label du ministère d'ailleurs, je pense.
Une qualification très précise.
Qui assure qu'ils ne sont pas à but lucratif.
Qui assure notamment qu'ils ne sont pas à but lucratif et qui doivent être régulièrement évalués par le HCERES. Voilà, tous les 5 ans. Et sur la base de l'évaluation HCERES, sur la base d'informations sur la non-lucrativité, le comité, le CCESP, qui est un comité ministériel, évalue le dossier et décide de prolonger la qualification des ESPIG, ou au contraire de la retirer.
Donc tous les établissements privés ne sont pas qualifiés d'ESPIG?
Non, non. Ce sont seulement ceux qui sont considérés comme étant non-lucratifs et qui, de ce fait, touchent des subventions de l'État pour réaliser leur mission d'intérêt général.
D'accord. Donc on repart sur la mission de la CEFDG. Dans ce nouvel agrément, elle devra décider de qui aura l'agrément ou pas dans le cercle des établissements privés.
Elle ne sera pas la décisionnaire, elle rendra un avis sur la qualité des formations. Et la question se pose aujourd'hui de savoir si elle évaluera à l'avenir l'intégralité des formations comme elle fait aujourd'hui, ou si elle évaluera les formations de manière très approfondie par un système de carottage dont parlait Olivier Ginez mercredi, et donc par un système finalement d'audit un peu aléatoire dont il faudra définir les règles pour déterminer si finalement la qualité est au rendez-vous ou pas.
Mais ce carottage, ou bien au contraire cet audit exhaustif, ça restera de la responsabilité de la CEFDG? Parce que quelquefois on entend dire qu'il y aurait peut-être une autre instance qui apparaîtrait. C'est une fausse rumeur?
Non, c'est de la compétence de la CEFDG.
D'accord.
Et ça reste de la compétence de la CEFDG.
Et donc tous les enseignements...
En tout cas pour les enseignements en management, hein,
oui,
excusez-moi.
Bien sûr. Mais tous les établissements privés qui enseignent le management passeront tous par la CEFDG?
Non. Vous imaginez l'effet de volume que cela pourrait créer. Donc nous sommes bien obligés de nous limiter normalement au cercle des ESPIG et très probablement au cercle des établissements agréés. Ensuite, pour les autres établissements, ce que le ministre avait appelé le troisième cercle, ce sont des établissements qui feront l'objet d'une certification délivrée par le ministère du Travail, ce sera la certification Calliope, mais ce sera un Calliope renforcé qui intégrera des éléments d'évaluation des formations. Et donc, pour préparer ce référentiel d'évaluation des formations, le ministère s'est fondé notamment sur des groupes de travail que nous avons pu avoir les années précédentes sur le label. Et j'ai dit à Olivier Ginez, qui m'en a fait la demande, que les membres de la commission étaient prêts à faire des formations auprès des experts Calliope pour qu'ils sachent évaluer des formations. Ça veut dire que Calliope, aujourd'hui, qui est un label de qualité qui porte sur des processus internes d'organisation, mais pas sur les formations, va être élargi. Et donc, il y aura aussi, grâce à Calliope renforcée, des qualités garanties sur des formations que nous n'examinons pas. Quelque part, par une forme de sous-traitance, si vous le voulez.
Donc, c'est pour ça qu'on parle de plusieurs cercles. Le premier cercle, ce seront les établissements publics. Vous m'arrêtez si je me trompe.
Absolument.
Le deuxième cercle, ce seront...
Et les ESPIG.
Et les ESPIG dans le premier cercle.
Mmh.
Donc, et ce seront eux que vous regarderez, vous, à la CEFDG, les ESPIG, pas
Absolument.
Les établissements publics. Dans le deuxième cercle, il y aura...
Les établissements agréés.
Agréés, du coup, par qui?
Ah, ils seront agréés par le ministère, hein, sur recommandation du HCRES, sur la base d'un rapport du HCRES.
Et donc, ce rapport de l'HCRS sera fait indépendamment des travaux de la CEFDG?
Non, ils seront faits conjointement. L'idée, c'est que nous nous rapprochions, vous l'avez suffisamment entendu, et que donc des rapports conjoints puissent être faits.
D'accord. Alors, je suis un établissement de cette catégorie-là. Ça fait 5 ans que j'existe. Qu'est-ce que je fais? Je m'inscris où? Je fais quoi? Pour être reconnu, qualifié, agréé?
Agréé.
C'est une question, c'est une très bonne question. J'aurais tendance à dire que si je suis ESPIG, les choses vont assez naturellement se faire, puisque je serai dans le premier cercle. Si je suis un établissement dont déjà le portefeuille de formation est très largement visé ou gradé par la CEFDG, je vais pouvoir aisément concourir à l'agrément. Je pense qu'il va y avoir une articulation à inventer entre le visa, le grade et l'agrément donné au départ. Mais cependant, Olivier Ginez l'a rappelé, son souhait, c'est qu'il y ait une évaluation avant l'octroi de l'agrément. Donc il y aura très probablement une évaluation que nous aurons à mener. Alors nous, si nous avons déjà évalué les formations, ce sera fait. Mais peut-être qu'il faudra passer par une évaluation HCRS en plus.
Et une évaluation.
Pour l'instant, c'est là, je vous parle d'hypothèses de travail. Je ne peux pas, voilà, je peux pas vous dire que ce sont des certitudes.
Il faut rappeler que le ministère a fait des annonces qui sont encore générales et que vous vous donnez 2 ans pour arriver à la délivrance
construire cela
de cet agrément.
Absolument.
Okay.
Mais alors, je reviens sur un point. CEFDG continuera à évaluer les programmes. La CRS se mettra à évaluer les établissements. C'est ça ? J'ai bien compris, j'ai bien lu.
La répartition des compétences est celle-ci. Ceci dit, il se peut que le spectre de compétences de la CEFDG s'étende aux établissements à terme.
D'accord. Et alors si, puisqu'on parlait même de carottage et de tirage aléatoire pour tout ça, mais alors je suis un établissement agréé, et le jour où je suis agréé, j'ai 20 programmes. 5 ans après, j'en ai 100 que j'ai développés gentiment, bien, etc. Comment on fait pour s'assurer que les 90 de plus, les 80 de plus sont de bonne qualité ?
Bien, là, la question se posera de savoir s'il faut évaluer les diplômes en création, de savoir comment on peut envisager les choses du point de vue de la marge de liberté qu'on laisse aux écoles par rapport à la création de diplômes. Et de ce point de vue-là, pour moi, il y a deux scénarios à avoir. Et un, plutôt à favoriser dans le court terme. Là, je dis des choses qui n'avancent, qui n'engagent que moi. Hein. À court terme, on demanderait aux écoles de déterminer un périmètre de formation qui pourrait concourir au visa et au grade dans le cadre de l'agrément, d'accord ? Et nous procéderions à des contrôles a posteriori, en se fondant quand même sur les évaluations qui ont déjà été rendues, hein, sur les diplômes existants. Et peut-être qu'à terme, notamment pour les établissements du premier cercle, on pourrait envisager une forme d'autonomie dans la gestion de l'offre pédagogique avec l'application d'une présomption de qualité, mais toujours en contrôle a posteriori. Dans un cas comme dans l'autre, il faudra assortir ce mode de fonctionnement d'un régime de sanctions. Ce que, pour l'instant, nous ne savons pas faire. Pour l'instant, le régime de sanctions, il est lié à des évaluations individuel de chaque diplôme. Donc il va falloir revoir les choses de ce point de vue-là. Imaginez un régime de sanctions. Portera-t-il sur un réexamen total de l'offre de formation et un déblayage de l'offre de formation de qualité ? Est-ce que ça passera par la perte de l'agrément ?
Ça, ce serait au bout de 5 ans.
Voilà, exactement. Olivier Ginez évoquait aussi la possibilité de faire des audits surprises quelque part durant les 5 ans. Là, j'avoue que nous sommes dans un processus en construction de réflexion. Vous voyez, les cerveaux chauffent et pour l'instant, la fumée blanche n'est pas complètement sortie.
Bon. Une question d'ethnologue. La CTI va être traitée de la même façon ? Apparemment pas.
Alors, la CTI, la CEFDG n'ont pas de personnalité morale. Ce sont des commissions ministérielles. L'une est régie par décret, l'autre est régie par la loi, et donc elles n'ont pas exactement le même horizon de temps.
D'accord.
Ça veut dire que la CTI ne se rapprochera pas autant du HCRS que la CEFDG ?
Écoutez, je ne peux pas me mettre à la place de mon amie Claire Perratou et je lui laisse le soin de vous apporter ces éléments de réponse quand vous la solliciterez.
C'est prudent.
On peut peut-être faire une petite pause là pour tous nos auditeurs. Vous pouvez peut-être nous rappeler les acronymes qu'on utilise facilement, la HCRS, CTI
Alors, la CTI, c'est la Commission des titres d'ingénieur. Le HCRS, c'est le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Et dites-nous qui est Monsieur Ginez.
Olivier Ginez est le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le DGESIP.
Au ministère de l'Enseignement supérieur.
Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Dites-moi, quel lien y aura-t-il entre cet agrément et la présence d'une formation sur Parcoursup ?
Les établissements agréés ou les établissements ESPIG ou publics, bien évidemment, verront leur formation référencée automatiquement sur Parcoursup.
Et tous ceux qui seront agréés ?
À ma connaissance, oui, c'est comme ça que les choses ont été présentées. On a bien entendu la même chose le même jour, je crois, au ministère. Donc, je crois que c'est ce qui a été annoncé.
Donc, ça veut dire que ceux qui ne sont pas agréés ne devraient pas être sur Parcoursup?
A priori, non.
Ok.
Mais je vous donne une fois de plus mon avis.
Quid des apprentis? Juste en une phrase, est-ce qu'il faudra cet agrément pour pouvoir accueillir des apprentis?
Je pense que c'est une question en suspens et que les retours qui sont faits en ce moment au ministère doivent alimenter la réflexion sur ce sujet. Vous savez que le ministère nous a sollicité pour rendre des contributions au projet de réforme. Dans le cadre de ces contributions, j'imagine que la question du sort des apprentis se pose.
Okay.
Mais j'aurais tendance à vous dire que pour nous, pour l'instant, ça n'est pas spécialement le sujet. Ça l'est beaucoup plus pour des écoles qui se considèrent comme étant de qualité et qui considèrent que le marché de l'apprentissage est complètement grignoté par des officines.
Mmh. Une dernière question sur cette affaire de commission et d'agrément. Cet agrément, il est censé être là pour rendre le paysage plus lisible pour les familles. Mais si on ajoute un agrément et qu'on veut plus de lisibilité, alors il faut enlever des choses, des labels, des étiquettes, des processus d'évaluation. Est-ce qu'il y a des choses qui vont disparaître? Ou est-ce qu'on rajoute une couche à ce qui existe déjà?
À mon sens, la porte d'entrée qui est voulue par le ministère, c'est celle de l'établissement.
Oui.
Donc, le label attaché à l'établissement sera l'élément principal. Et je pense qu'à horizon long terme, on parlera plus des établissements que des formations à proprement parler.
Donc, de l'agrément. L'agrément attaché à l'établissement.
L'agrément ou le statut des SPIG, etc. Mmh. Absolument. En tout cas, c'est la volonté qui semble ressortir du discours du ministre. C'est comme ça que je l'ai saisi. Ce qui signifie que à terme, la notion de grade et de visa sera peut-être remise en cause. Du moins, peut-être, la notion de visa, la notion de grade. Pour l'instant, ce sont des notions qui sont extrêmement importantes, auxquelles les écoles sont extrêmement attachées. Et je pense que si de telles mesures devaient être prises, ça ne le serait pas à horizon court terme, mais beaucoup
mais
plus dans le long terme.
Juste pour être exhaustif, et pendant ce temps-là, l'enseignement public, les universités qui enseignent la gestion, elles sont, comment on va les appeler dans 5 ans? Elles seront aussi, elles seront labellisées comment? Ou bien c'est automatique? Est-ce qu'on pourra dire que Dauphine est agréée, ou bien ça n'aura pas de sens?
Non, parce que Dauphine et les autres universités appartiendront au premier cercle, au même titre que les ESPIG. Donc elles n'auront pas d'agrément à demander. On ne va
D'accord.
pas dire aux universités, vous allez repasser les épreuves, etc. Il y a aujourd'hui une présomption de qualité qui s'applique aux universités sur leurs diplômes, attention, sur les diplômes d'État qu'elles délivrent. Et les diplômes d'État répondent à des cahiers des charges. Ce qui veut dire qu'il faudra très probablement, par rapport à l'offre de formation des écoles, qu'il y ait aussi un cahier des charges, de manière à ce que l'on puisse finalement considérer que les diplômes qu'elles délivrent, en tout cas qu'elles ont choisi de délivrer, par exemple sous le label grade, puissent garantir le respect de ce cahier des charges. Et de ce point de vue-là, le référentiel de la CEFDG peut constituer un bon point de départ pour définir ce cahier des charges.
On nous en voudrait de ne pas vous poser la question des EESC, évidemment, à ce moment-là de la période. Les EESC sont les établissements d'enseignement supérieur consulaire, donc qui ont été créés par des chambres de commerce, que vous connaissez bien, Bernard. Ces EESC ne sont pas encore dans le premier cercle au moment où on se parle. Est-ce que vous pensez qu'elles pourraient devenir considérées comme les ESPIG ou pas?
Je crois que les EESC se défendent bien en ce moment à ce sujet. En tant que président de la CEFDG, je ne le suis pas depuis longtemps, mais depuis que je le suis, et Mathilde Goletti avant moi, avons toujours posé la question de savoir pourquoi HEC et le SCP n'étaient pas logés à la même enseigne que l'ESSEC.
C'est une bonne question. Si on reste sur la mission de la CEFDG, de façon plus qualitative, est-ce que vous anticipez un changement des critères? Je vous pose la question parce qu'on a lu récemment que la ACSB, qui est l'organisme d'accréditation d'origine américaine et qui accrédite beaucoup d'établissements, un peu sous la pression, on va dire, de Trump, pour schématiser, avait changé ses critères. Quelle est la position de la CEFDG aujourd'hui sur ça? On va tout de suite dire changer ses critères ou changer la formulation des critères. Mais...
Nous ne sommes pas appelés à changer la formulation des critères. Nous ne sommes pas dans la situation de l'AICSB. Je ne voudrais pas me montrer critique à l'égard du renoncement qui a été le leur par rapport à des éléments de langage. Donc, pour autant, l'AICSB s'est défendu en disant que les idées étaient toujours là et que les termes changeaient. Une manière pour eux de ne pas se trahir. Voilà. Et je ne sais pas ce que je ferai à leur place dans un contexte analogue.
D'accord, merci.
Revenons un petit peu en France, vous avez annoncé que la situation financière des écoles était devenue au fil du temps une préoccupation majeure de votre commission et que vous alliez même à partir de l'année prochaine demander davantage d'informations de nature financière aux postulants, aux écoles. Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste et comment vous allez juger de la santé financière d'une école ?
Oh, nous n'allons pas chercher très loin parce que nous ne voulons pas non plus rendre la vie des écoles impossible. Mais voilà, il se trouve que la situation financière des écoles constitue un point d'attention croissant pour nous. Je vais vous donner quelques chiffres à ce sujet-là. Si je prends 42 écoles dont nous avons évalué les formations ces deux dernières années, donc qui ont fourni sur la base de chiffres de 2022-2023, 2023-2024, pour les informations qui ont été fiabilisées, en tout cas que nous avons considérées comme fiables, parce que parfois les écoles peuvent nous faire remonter des informations qui nous semblent un petit peu aberrantes. Donc on les a sorties du scope. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que sur ces 42 écoles, 15 affichent des pertes d'exploitation, ou ce que l'on peut assimiler à des pertes d'exploitation. Ces pertes d'exploitation pouvant aller de 65 000 euros à 2 700 000 euros.
Ce n'est pas un détail, hein ?
Non, ça n'est pas un détail. Il y en a... Alors, je vais ajouter un élément d'analyse à ça. 14 d'entre elles ont intégré plus de 50% d'apprentis. Ça monte jusqu'à 85% des effectifs. Et 6 d'entre elles ont un résultat d'exploitation ou approchant négatif, et ont plus de 50% d'apprentis.
Donc elles sont très dépendantes, c'est ça que vous voulez dire, de
l'argent
public ?
Elles sont dépendantes de l'apprentissage, elles sont dans des situations financières qui peuvent être questionnées. Certaines d'entre elles ont des situations financières tendues depuis plusieurs années. Voilà, donc tout cela appelle une attention particulière de notre part, parce que, je vous le rappelle, même si nous nous intéressons aux formations, la pérennité des formations nous importe et dont la pérennité des établissements qui les portent aussi.
Jusqu'à présent, la CEFDG n'a pris aucune décision prenant ça en compte, prenant cette situation financière en compte.
Elle peut moduler dans la durée. Quand il y a un doute raisonnable sur la pérennité du diplôme, elle peut ne pas octroyer la durée maximale. Et c'est arrivé cette année.
Comment voyez-vous le secteur de l'enseignement supérieur de gestion en général évoluer dans les 5-10 ans, à partir d'ailleurs des chiffres que vous venez de donner ?
Alors, on va évacuer un aspect d'abord, qui est celui de la réforme, qui va très probablement structurer les choses, et il faudra voir comment elle structure les choses. Notamment par rapport à l'accès à l'apprentissage des établissements qui n'ont pas l'agrément et des choses de ce genre. Donc là il y a de vraies questions et qui auront un effet très structurant. Si je m'intéresse à nos écoles, celles qui sont dans le cercle que nous évaluons aujourd'hui, je pense qu'il y aura des restructurations. Il y en a qui sont déjà à l'œuvre. Ces restructurations peuvent passer par des fusions, elles peuvent passer par des rachats, par des groupes privés. Certains dirigeants d'école nous l'ont dit d'ailleurs, en nous disant qu'ils ne s'interdisaient rien par rapport à ça. La situation financière dont je vous livrais la description peut très rapidement s'aggraver pour certaines écoles, tout simplement en raison du fait de la perte de subventions de la part des collectivités locales. Et donc, les situations peuvent changer, mais très très vite.
Et face à une telle situation, vous n'avez pas peur que les écoles sacrifient la qualité pour reconstituer leur marge ?
Elles auraient tort.
Sûrement, mais...
Elles auraient tort. Elles feraient mieux de préserver la qualité d'un noyau dur de formation pour s'assurer d'une attractivité suffisante, plutôt que d'essayer de partir dans les limbes d'une formation de moindre qualité et qui serait accessible, je ne sais pas, par exemple, hors Parcoursup. Hein, je ne sais pas si vous avez vu les campagnes publicitaires cette année, au début de la campagne Parcoursup, d'écoles qui vendaient la possibilité de passer sans Parcoursup, d'arriver dans une école sans Parcoursup. Ce qui nous renvoie à la très belle intervention de Pierre-Michel Menger mercredi au Collège de France, colloque de la CEFDG, qui nous parlait du contrat d'effort. Voilà, je crois si ce qui légitime aujourd'hui pour Pierre-Michel l'enseignement privé, c'est le contrat d'effort. Il ne faut pas renoncer au contrat d'effort.
Et vous êtes prêt à sanctionner des gens qui auraient renoncé, des établissements qui auraient renoncé? Est-ce que la CEFDG est prête à renoncer à ça?
Nous ne reviendrions pas sur nos critères d'exigence de qualité. Je pense que c'est pas le but. On n'est pas là. On n'est pas là pour devenir moins de 10 ans en termes de qualité pour faire face, pour aider des écoles à faire face à des situations difficiles. Nous sommes là pour les écoles, mais nous sommes là aussi pour les familles et les étudiants. Et nous n'allons pas dire du jour au lendemain aux étudiants, écoutez, le secteur a beaucoup de fièvre, donc on va mettre la limite du thermomètre à 40.
Jérôme Méric, on a plein de questions à vous poser encore. On a malheureusement déjà explosé le compteur du temps qui nous était imparti. Alors j'en arrive à la dernière question de ce podcast. Est-ce que vous auriez un conseil de lecture? On va faire baisser la température. Un conseil de lecture pour nos auditeurs? Quelque chose qui vous a particulièrement intéressé ou touché ces derniers temps?
Un ouvrage que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, qui est un... Je ne sais pas si vous avez vu passer le fait que Ismaïl Kadare est mort il y a un an environ. Très grand auteur albanais, on a eu la chance d'avoir un traducteur, Youssouf Rioni, qui nous a pu nous donner l'impression que Ismaïl Kadare écrivait en français. Ça, c'est assez extraordinaire. Et l'ouvrage que je recommanderais à nos auditeurs, c'est le dossier H, l'histoire de deux scientifiques américains qui, dans les années 30, débarquent en Albanie pour essayer de rencontrer des rhapsodes et étayer des hypothèses qui sont les leurs sur l'origine balkanique des sagas d'Homère.
Ça nous mène loin.
Et donc, si ça nous mène loin, c'est aussi parce que ces deux scientifiques ont une vie pleine de péripéties pendant qu'ils sont en Albanie. Et on a l'impression qu'on va toucher du doigt une vérité sur Homer. Et puis, patatras, on perdra ce rêve à la fin. En tous les cas, voilà, je ne peux que vous recommander la lecture de ce très, très beau livre.
Bon, on voit que ça vous a ému, en tout cas. Merci beaucoup, Jérôme Méric, de nous avoir rendu visite au Studio Module aujourd'hui. Merci aussi à vous, cher Bernard, d'avoir joué au journaliste à mes côtés cette année. On se retrouve, si tout va bien, à la rentrée 2025 pour poursuivre notre exploration du merveilleux monde de l'enseignement supérieur de gestion. D'ici là, passez un très bel été et portez-vous bien.
Un très bel été à toutes et tous.